Je continue. D'abord, répondant aux questions. Puisque nous n'avons pas deux âmes, mais une seule, est-ce qu'il n'est pas évident que l'âme est créée dès la conception? Sinon, ne faudrait-il pas admettre qu'il existe une âme végétative et sensible à la conception et seulement ensuite une âme spirituelle? Vous savez que les anciens avaient toute une théorie très spéciale là-dessus, en disant que la virtus, en quelque sorte, qu'on recevait de la vie végétative, permettait un développement. Alors, on ne va pas entrer là-dedans. Je crois que c'est très vrai que, pour moi, c'est la question du chiffre du vivant. Il me semble très difficile que si le vivant a déjà son chiffre, au niveau de la vie végétative, n'est-ce pas, qui est le même que quand il a pleinement développé, on ne voit pas comment il pourrait y avoir ensuite un changement. Donc ça revient à ça, c'est évident que l'âme spirituelle informe le corps par l'aspect âme végétative, mais que l'âme végétative et l'âme spirituelle et l'âme sensible sont une seule âme substantiellement. Bon, je n'en trouve pas plus. Hein. L'évolution du vivant. L'évolution du vivant n'est-elle pas prouvée par la capacité d'aimer et d'intelliger qui semble être absent chez l'animal, qui relève d'un premier moment, refusant toute explication théologique? N'est-ce pas là la preuve de l'impossibilité d'une telle évolution? Ça ne prouve pas, c'est toujours la même question. C'est sûr que le passage de l'animal supérieur, si supérieur qu'il soit, à l'âme spirituelle, implique un hiatus très très grand. C'est bien évident. Ça implique un véritable passage. On n'entend pas dans le fond. Il y a des présences qui sont des absences. Faut dire, ceux qui sont dans le fond, quand ils n'écoutent pas, quand ils n'entendent pas, ils n'ont qu'à se lever. Donc à se lever, là, je prendrai qu'il y a un signal venu ici, comme ça, juste en face. Parce que il est là juste à côté, donc je peux facilement le faire intervenir. Bon, vous voyez, tout le problème, hein, c'est au niveau de l'âme. C'est pas au niveau de l'intelligence et de l'agir. Enfin, tout le monde est d'accord que l'intelligence et l'agir, du moins tout le monde, pas tout le monde. Parce que les positivistes purs considèrent qu'il n'y a pas d'âme spirituelle. Et que l'intelligence et l'amour s'expliquent tout simplement par une espèce d'évolution de la matière. C'est la théorie des stoïciens. Les stoïciens disaient déjà ça. Mais c'est pas nouveau. Épicure disait ça aussi. Il n'y a pas d'âme spirituelle au sens, il n'y a pas d'immortalité de l'âme pour eux. Et l'immortalité de l'âme présuppose que moi, substantiellement, l'âme est capable de vivre, d'exister indépendamment de corps. Or, pour les stoïciens, pour Épicure, l'âme n'existait pas, ne pouvait pas exister sans le corps. Donc, il n'y avait pas d'immortalité de l'âme. Et on expliquait tout simplement le point de vue de l'intelligence et l'amour comme quelque chose de plus spirituel, mais pas de spirituel. Quelque chose de plus spirituel. Je vous ai déjà raconté cette histoire qui m'est arrivée à Paris avec des médecins, parce que les médecins, ou ils sont très bien, ou ils sont positivistes purs. Il y a un partage dans les eaux qui est très net. Alors, c'était des médecins qui cherchaient au point de vue psychologique. Et dès que je parlais de l'esprit, ils se mettaient à rire. Tout de suite. L'esprit, on ne parle pas de l'esprit. Je comprends qu'un médecin ne soigne pas l'esprit. Ça, c'est évident, il soigne le corps. Alors, dis-moi que je te fréquente et je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Quand il ne regarde que le corps, au bout d'un certain temps, il ne voit plus que cela. C'est très vrai. Mais pour eux, pas pour les médecins de façon générale, mais pour les positivistes, l'âme n'est pas immortelle. Et donc, le phénomène de l'amour et d'intelligence, c'est tout simplement un phénomène plus spirituel que la connaissance sensible. Mais ça reste lié au corps. Et le raisonnement qui donne toujours, vous savez bien c'est lequel, c'est que vous pouvez arriver par une petite opération, arriver à empêcher le point de vue du fonctionnement de l'intelligence et du fonctionnement de la volonté. Vous pouvez, par une toute petite opération, faire que, en un rien de temps, tout de suite, vous redevenez gaga, à l'âge de 4 ans. Il y avait un spécialiste comme ça à Fribourg qui faisait ça couramment. On le savait. Alors on venait apporter les vieux grands-pères, un peu insupportables, qui avaient des colères effrayantes. On les apportait, alors on faisait une petite opération, rien du tout. Et puis on lui disait dans le creux de l'oreille, faites ça. Alors il est révisé, il était à 4 ans après. Alors il est traîné dans une petite brouette. Il a marché debout, mais vraiment, il dit. Alors on a, au bout d'un certain temps, on lui a fait un procès, il était obligé de partir. Il faisait ça régulièrement. Je ne pourrais pas expliquer techniquement, on me l'a expliqué, c'est très simple, mais on pourra l'expliquer un jour, n'est-ce pas? C'est que c'est très vrai qu'on peut arriver. On peut arriver à empêcher par certaines piqûres ou par une opération chirurgicale, on peut empêcher l'exercice de l'intelligence. On peut empêcher l'exercice de la volonté. Alors, on conclut de là que l'intelligence et la volonté sont comme la sensation. Parce que vous pouvez modifier les organes sensibles. C'est bien évident. Donc, si vous pouvez agir sur le corps et empêcher l'intelligence et la volonté, ça prouve que l'intelligence et la volonté ont un organe sensible. Vous voyez bien le sophisme. Le sophisme consiste tout simplement dans le fait que l'exercice de mon intelligence a toujours besoin d'imagination. Je ne peux pas penser sans image. Nous le verrons, ça, c'est très important. Je ne peux pas penser sans image. Mais c'est de l'ordre de l'exercice. L'objet de ma connaissance intellectuelle n'est pas lié au monde sensible, puisque je connais quelque chose qui a un mode universel. L'universel n'est pas lié au sensible. Mes concepts ont un mode universel, et eux ne sont pas sensibles. Donc ils ont une signification universelle. Je peux donc dire que mon intelligence dépasse le domaine du sensible et atteint quelque chose qui est au-delà du monde matériel. Mais l'exercice de mon intelligence est toujours lié au sensible, de même l'exercice de ma volonté. De sorte que je peux supprimer l'exercice du jugement, du discernement, je peux supprimer l'exercice de la volonté, parce que l'exercice de la volonté et du jugement sont liés au monde sensible. Mais pas l'objet propre de l'intelligence et l'objet propre de ma volonté. Et ça, nous le verrons quand nous aborderons l'âme spirituelle. Alors nous allons maintenant, après avoir vu ce qu'était l'âme végétative, vous avez bien compris que nos connaissances dans ce domaine-là, philosophiquement, sont assez courantes. Elles sont très importantes, elles disent quelque chose que le savant ne peut pas dire, mais il est bien évident que l'âme végétative, la biologie peut dire des quantités de choses que le philosophe devrait pouvoir, d'une certaine manière, assumer. Mais arriver à une philosophie du corps. Arriver à une philosophie du corps, c'est évidemment regarder ce support fondamental que représente notre vie végétative. Notre vie végétative, c'est le sous-sol. Hein. Vous voyez, c'est le sous-sol. Hein. Là où il y a la cuisine, là où il y a la chaudière, c'est ça notre âme végétative. Hein. C'est la cuisine, la chaudière. C'est des choses très importantes. Il s'agit de vie, primum vivere. Il ne faut pas la chauffer trop et il ne faut pas non plus la chauffer pas assez. Alors, il faut maintenir un certain équilibre qui représente l'équilibre et l'harmonie de la vie végétative. C'est ce qu'on appelle la santé. Les anciens disaient l'harmonie des humeurs. C'est pas si bête, n'est-ce pas? Il fallait une certaine harmonie des humeurs pour que, de fait, on puisse garder une santé qui soit bonne. C'est très vrai que l'âme végétative fait qu'on a l'impression que ça implique une harmonie. Une harmonie dans une très grande complexité. Cathédrale de molécules. Donc une très grande complexité. Et une très grande complexité qui fait que la vie végétative, le vivant, se nourrit, il garde une harmonie en lui, le vivant peut croître, le vivant arrivé à une certaine taille peut être source d'une autre vie, le point de vue de la procréation. Donc on voit combien il y a une complexité dans le vivant et une harmonie, et que la finalité de la vie végétative, c'est la procréation. C'est la survivance de l'espèce. Alors, je vous ai bien montré à ce moment-là qu'il ne faut pas confondre, nous y reviendrons, la question de l'instinct et la question de l'appétit naturel. De façon traditionnelle, c'est-à-dire depuis Aristote, on appelle un appétit naturel quelque chose que le philosophe pose, mais dont nous n'avons pas immédiatement conscience. Nous avons conscience de ce que nous allons voir maintenant, de tout le point de vue de la vie végétale, de la vie sensible. Je reviendrai à l'âme végétative en voyant les rapports qui existent entre les deux. Il faut bien voir les deux moments. Je crois qu'il y a deux moments dans la vie végétative. On étudie la structure de la vie végétative, ce que nous avons fait, la nutrition, la croissance, la procréation. Alors, je vous l'avais dit, opération, donc assimilation, la nutrition, assimilation substantielle. La croissance, c'est un mouvement qui implique l'assimilation substantielle, mais qui est uniquement dans l'ordre de la quantité. Je grossis, je maigris, je m'étends, et se forme progressivement toute la complexité d'un être vivant, la croissance. Et l'appropriation, c'est encore une opération substantielle. C'est une opération substantielle puisque ça aboutit à un nouvel être, à un vivant. Un vivant qui lui-même est capable de devenir source de vie. Donc il y a là une continuité. C'est ce que je vous avais dit qu'il fallait bien saisir, cet aspect très particulier de la procréation, qui fait que c'est une opération de l'individu, mais c'est une opération au nom de l'espèce. Alors il faut arriver à comprendre ce que ça veut dire. De l'individu au nom de l'espèce. Ce qui ne pourra se comprendre parfaitement qu'au terme. Hein. J'y reviendrai, parce que c'est important à saisir ça. Alors, nous allons entrer maintenant dans l'âme sensible. C'est un domaine beaucoup plus vaste au point de vue philosophique, c'est évident. C'est tout le domaine du psychisme que nous avons regardé là. Alors là, il y a du plaisir. Hein. C'est le psychisme, toute la complexité. Vous voyez, si l'âme végétative est complexe, vous allez voir ici, c'est anarchique. C'est non seulement complexe, mais c'est anarchique. La vie végétative n'est pas anarchique du tout. Pas anarchique du tout. Elle est harmonieuse. Et la santé implique l'harmonie. Donc la santé implique un équilibre. Un équilibre des forces contraires, toujours, et c'est ça l'équilibre de la vie végétative, être en bonne santé. Tandis que l'âme sensible, que nous allons essayer d'étudier, qu'est-ce que c'est que cette âme sensible? Parce que vous voyez, l'âme, je ne l'étudie pas directement, hein, je l'étudie à travers ses opérations. Et chacune de ces opérations me fait poser une dynamis, c'est-à-dire une puissance vitale. Et ces puissances vitales s'enracinent dans l'âme végétative. Mais je n'ai aucun contact direct avec mon âme végétative. Je l'ai qu'à travers les opérations qui posent des diverses facultés, diverses puissances, et ces puissances implique une certaine unité. Il y a une unité à travers la nutrition, la croissance et la progression. Il y a une unité, et cette unité, elle est dans l'âme élective. Mais cette unité, puisqu'il y a harmonie, s'il y a harmonie, il y a complexité et unité. Alors, il y a des moments où la complexité dans la croissance, vous voyez, quand on dit grande jambe, grand, hein, grand bras, avec tout ce que ça implique derrière. Alors, c'est comme, vous voyez qu'il y a une croissance qui est à ce moment-là désharmonieuse. Vous voyez, l'harmonie ne se fait plus sentir. Il y a quelque chose qui fait que l'unité, on est plus aussi fort. C'est très curieux, ça, du point de vue de la vie végétative. Et alors, le danger d'intervenir, ça c'est évident, mais ça on le verra après. Jusqu'où pouvons-nous intervenir ? Il faudra philosophiquement traiter le problème. Voir si on peut le traiter au moins. On doit au moins se le poser. Alors, ici, c'est essayer de comprendre la complexité de la vie sensible et de voir que la vie sensible, à la différence de la vie végétative, n'a pas d'harmonie en elle-même. Elle est anarchique. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous n'avez pas de finalité propre de la vie sensible. La vie sensible est ou ordonnée à la vie végétative ou ordonnée à la vie intellectuelle. La vie spirituelle. Mais elle n'a pas de finalité en elle-même. C'est pour ça qu'elle est anarchique. C'est pour ça qu'elle peut partir en tous les sens. Et quand vous cultivez la vie sensible pour elle-même, vous allez exprès dans tous les sens. Ça explique les possibilités que nous avons de dévier complètement. C'est, toutes les déviations sont là. Alors on verra là dans quelle mesure on peut parler de conscient et inconscient. C'est le psychisme. Ça. Alors, nous allons essayer de voir, toujours du même procédé, nous constatons les diverses opérations. À partir de là, nous analysons et nous remontons à l'âme sensible. Alors, première opération que je peux constater, la sensation. Les sensations. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout de suite, elles sont multiples. Les sensations. Les sensations externes. Parce que c'est les sensations externes que je vois en premier lieu. C'est celles que je constate le plus immédiatement. Quelles sont ces sensations externes ? Il y a la vision. Je prends l'homme, hein. Je ne me demande pas si tous les animaux ont ça. Évidemment, il y a l'aigle qui voit mieux que moi, de là je crois. Il a une vision plus aérienne. Plus... Mais je ne me suis jamais trouvé dans l'œil d'un aigle. Alors, je ne sais pas ce qu'il voit. Je n'en sais rien. C'est très, très difficile. Je projette sur l'aigle ce que je vois. Nous n'avons pas une connaissance directe de la vie sensible des animaux. Ça, c'est bien évident. Quand un chien pleure, je dis un chien pleure. C'est métaphorique. Oui, c'est les mêmes grimaces que quand je pleure. Si je me regarde à la glace en même temps, je me dis, tiens, il pleure. Vous voyez ? Parce qu'il y a deux choses semblables. Mais c'est vrai que je ne sais pas du tout quelle est la douleur de l'animal. C'est tout ce domaine-là qu'il faut comprendre, que j'ai une connaissance de cela et je la projette chez l'animal. Bon. Je n'ai pas de connaissance directe de la vie sensible d'un autre. D'un autre homme, là on a le langage, on peut arriver à s'entendre un peu, n'est-ce pas ? Et puis on peut arriver à mesurer la vision de quelqu'un. Maintenant on a des appareils suffisamment précis pour arriver à rectifier la vision. Puis on se dit, tu vois ça ? Moi je ne vois pas, tu vois ? Et bon, très bien. Au bout d'un certain temps, on arrive à savoir que l'un a une vision plus aiguë, l'autre moins aiguë. Et ainsi de suite. Bon. Il y a la vision. La vision et puis le toucher. Voilà les deux extrêmes. Hein. Ça, d'une façon générale, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est les deux extrêmes de toutes les sensations externes. Et entre deux, à côté de la vision, on peut mettre l'ouïe, on peut mettre le point de vue de l'odeur. De l'odorat. Et le goût. Vous
avez cinq sensations externes. Quelques-uns disent qu'il y a dans le toucher deux sensations, ça, c'est très à la mode ça, au point de vue psychologique, la sensation interne, externe, vous voyez, les sensations internes et les sensations externes du toucher. C'est vrai d'une certaine manière. Au point de vue philosophique, on regarde uniquement le toucher externe. C'est ça qui est le plus intéressant. Parce que ça n'ajoute pas grand-chose. Mais on le verra à mesure où l'imaginaire intervient. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a de l'imaginaire qui peut intervenir de façon extraordinaire. N'est-ce pas ? Quand on vous travaille une dent, vous n'avez qu'à voir combien l'imaginaire, à ce moment-là, est prodigieux. On vous enfonce. Et vous allez jusqu'où, pas jusqu'où ça va. Puis quand vous dites non, ah, c'est impossible. L'imaginaire a travaillé énormément. Parce que ce n'était pas un toucher que vous aviez directement. Il n'y avait pas la vision, il n'y avait que le toucher obscur. On verra ces choses-là, parce que vous comprenez, il y a les sensations internes, les sensations externes, il y a les sensations internes. Dans les sensations internes, vous avez ce que Aristote appelle le sens commun, sensus commun, le sens commun, puis vous avez l'imagination, puis vous avez le point de vue de la mémoire. Ça fait partie de tous les sens externes, de tous les sens internes. Et à côté des sensations, vous avez tout point de vue affectif. Ce qu'on appellera les passions. Donc voilà tout le domaine qu'il faut essayer de voir quand on parle de l'âme sensible. Tout ce domaine, vous voyez que c'est donc très vaste. Parce que c'est très vaste à bien préciser. Et tout cela nous fait comprendre la richesse de l'âme sensible. Et nous fait comprendre aussi l'aspect anarchique de l'âme sensible. Alors, si vous voulez, nous allons regarder la sensation de la vision un peu plus, et le toucher. On ne peut pas tout voir. Hein. Et simplement, les autres, essayer de préciser de tout. Mais ce serait très intéressant, parce que c'est très intéressant de regarder ce que chacune de ces connaissances de sensations externes apporte d'irréductible. Le toucher apporte quelque chose d'unique. La vision apporte quelque chose d'unique. Alors c'est pour ça que quand vous êtes en face des aveugles de naissance, il y a des possibilités par le sens commun, il y a des possibilités de suppléance. Très curieux, ces suppléances. Qui proviennent du fait même qu'il y a des liens entre ces cinq dans l'unité. C'est ça qu'on appelle le sens commun. Le sens commun, c'est le lien. C'est pas du tout ce qu'appelle le sens commun alors du bon sens. C'est pas ça du tout. Le sens commun ici, c'est le sens qui unit les cinq. Vous voyez que tout de suite, il y a cette chose curieuse, c'est que vous avez une diversité cinq et une unité. Vous êtes donc en face d'une connaissance sensible qui est tout de suite dans la diversité et dans l'unité. Vous voyez le fondement de l'analogie. L'analogie commence avec les sensations externes qui sont diverses et qui sont unes. Il y a une diversité et une unité. Ce qui montre que tout de suite, la connaissance est analogique. On ne peut pas ramener la connaissance à une seule connaissance. C'est du bon sens. Là, dans le bon sens, tout à fait, c'est du bon sens. On ne peut pas ramener, on ne peut pas tout ramener. C'est sûr que pour certains individus, ils sont beaucoup plus visionnaires, ou ils sont beaucoup plus olfactiques, ou l'ouïe. Ça dépend, c'est très curieux. Chez chacun d'entre nous, il y a un sens plus développé qu'un autre, qui a des répercussions, point de vue de l'imagination, point de vue de l'intelligence. Et je crois qu'on peut dire que les formes d'intelligence diverses proviennent de cette diversité des sensations. Donc c'est très important, on touche là à la base, hein, de tout notre appareil de connaissance. Nous commençons à connaître par le point de vue de la sensation. Alors la vision, faisons appel à notre expérience de vision, hein, et ici direct, hein, sans passer par des appareils. Le philosophe laisse tomber les appareils pour prendre conscience de la vision.
Je prends conscience de ma vision quand je vois qu'est-ce qu'il y a.
La vision va impliquer un objet que je regarde. C'est la lumière.
On est sensible fondamentalement à la lumière. Vous savez bien que chez certains qui ont le sens de la vision très peu développé parce que c'est arrêté, ils n'ont quelquefois comme uniquement comme discernement la lumière et les ténèbres. C'est très curieux. Ils ne voient pas les couleurs, mais il y a la lumière et les ténèbres. Ce qui montre que le discernement premier, c'est lumière et ténèbres. C'est ce que je vois en premier lieu. Normalement, notre vision ne s'arrête pas à la lumière. Mais chez certains, ça s'arrête à la lumière. C'est pour ça que nous pouvons le dire. Je peux dire que je vois la lumière. C'est vrai, je vois la lumière. Mais ma connaissance s'arrête aux couleurs. Ce que j'appelle les couleurs. Ce que j'appelle les couleurs, c'est-à-dire aux qualités sensibles. Elle s'arrête donc aux qualités sensibles. Aux qualités sensibles, les qualités sensibles étant les qualités sensibles propres, étant la lumière et la couleur. Je vois normalement le rose, le rouge, le bleu d'une réalité, ou le gris d'une réalité. Je vois cela, je vois ces qualités sensibles. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que c'est que ces qualités sensibles-là. On interviendrait dans des tas de choses différentes. Je prends, et ça je crois que c'est très important, vous voyez, de rester, et c'est là où les peintres peuvent nous aider beaucoup, où les artistes nous aident beaucoup, parce que les artistes ne sont pas abîmés par la science. Vous voyez, ils ne sont pas abîmés par la science. Il reste avec un œil pur, quand vous voyez un peintre, qui est vraiment un peintre, mais il aime la lumière. Puis alors vous lui donnez la définition de la lumière au point de vue physique, il en rigole. Parce qu'il s'en fiche pas mal. Ça ne l'intéresse pas du tout, ça. Ce qui l'intéresse, c'est cette chose tout à fait particulière de la vision de la lumière. De la vision de tout ce que ça représente, ces gammes et ces oppositions de couleurs. C'est ça qui l'intéresse. En premier lieu, il est sensible à cela. Et c'est vrai que lorsque vous regardez un paysage, lorsque vous regardez le ciel, c'est la lumière qui vous frappe en premier lieu. Et à travers la lumière, le point de vue de telle ou telle couleur qui est tamisée. Qu'est-ce que ça représente, cela? Je vois. Qu'est-ce que c'est que voir? Philosophiquement parlant, voir, c'est nécessairement être saisi par quelque chose qui n'est pas moi. Parce que la lumière, c'est pas moi. Parce que quand je suis dans les ténèbres, je m'aperçois bien que c'est pas moi. Si j'étais un verre à soie, n'est-ce pas, je serais lumineux pour les autres. Mais je ne sais pas ce qui se passe quand on va vers soi, j'en sais rien. Mais pour un verre, c'est brillant, qu'est-ce que ça représente? Bon, alors je sais que la lumière ne vient pas de moi, elle vient de l'extérieur. Donc je saisis quelque chose d'autre, une forme. Et on précisera que cette forme est présente dans mon œil, elle est présente dans mon œil. Je suis donc modifié par la réalité sensible. Mais je suis modifié par cette réalité sensible sans que le caractère physique de cette réalité soit présent. Il y a donc une zone particulière qu'on nommera forme intentionnelle, il faut bien mettre un mot, qui est l'intentionnalité sensible, qui n'est pas physique. C'est lié au physique. Le sensible est lié au physique et inséparable du physique dans l'objet sensible. Mais quand je le saisis, le physique n'est pas présent. Il n'y a que le sensible qui est présent. Il y a donc un discernement que je dois faire tout de suite et qui est le discernement propre de la connaissance.
ça n'existe pas au niveau de la vie, de la nutrition. Il y a donc là quelque chose que Avicenne dit, c'est le premier qui dit ça, il dit, il y a donc une abstraction. J'aime bien ça, ça c'est beau. Toute connaissance implique une abstraction. Il y a une abstraction au niveau sensible, parce que c'est le domaine de l'intentionnalité sensible, une force intentionnelle sensible, qui est saisie et qui est distincte du domaine physique. Saint Thomas ne dira pas qu'il y a abstraction. Ça, c'est les Arabes. Aristote ne dit pas qu'il y a abstraction. Mais c'est intéressant parce que c'est une manière d'exprimer. Je comprends très bien pourquoi elle n'a pas dit abstraction. Ça, on va comprendre après. Mais c'est simplement pour essayer de comprendre qu'il y a un domaine nouveau qui apparaît immédiatement. Ça, c'est les Arabes. Aristote ne dit pas qu'il y a abstraction. Mais c'est intéressant parce que c'est une manière d'exprimer. Je comprends très bien pourquoi elle n'a pas dit abstraction. Ça, on va comprendre après. Mais c'est simplement pour essayer de comprendre qu'il y a un domaine nouveau qui apparaît immédiatement dès que je suis dans le domaine d'une connaissance sensible. Dans le domaine de la connaissance sensible, je suis obligé, si j'ai conscience de ce que c'est que la vision, je suis obligé de discerner quelque chose de nouveau qui se sépare du monde physique, tout en étant fondé sur le monde physique, qui ne me change pas physiquement, mais qui me modifie dans ma conscience que j'ai de connaître autre chose que moi. Le propre de la connaissance, c'est donc d'être capable de recevoir une forme sans que je sois modifié moi-même dans ma propre forme. C'est ça qui apparaît tout de suite, dès que je réfléchis sur ce que c'est que la vision. La vision, elle est à le plus simple. Et la différence entre les ténèbres et la vision. Quand je ferme les yeux, je ne vois plus rien. Ou si on me donne un coup de poing, je ne vois plus que des éclairs. N'est-ce pas ? Et je ne vois plus rien. Alors, à ce moment-là, je saisis une forme, quand je vois bien, normalement, je saisis une forme sensible. Et cette forme sensible, elle est en moi. Et cette forme sensible me lie à une réalité. Et cette réalité est présente, et tant qu'elle est présente, je possède cette forme. Si cette forme disparaît, si cette forme sensible disparaît de sa réalité, de son objet, la rose, le rouge de la rose, ou le bleu du ciel. Ah oui, je peux regarder le bleu du ciel maintenant, mais peut-être tout à l'heure il y aura un nuage, et je ne pourrai plus voir le bleu du ciel. Et donc, je deviens l'autre, mais je demeure dépendant de l'autre. C'est le propre de la connaissance sensible. Je deviens l'autre, je deviens telle ou telle forme, et en même temps, je suis dépendant de cette forme. Je suis dépendant de la source de cette forme, de la réalité physique qui est présente à moi. Je ne peux pas garder cette forme en dehors de cette réalité physique. Dès que cette réalité physique disparaît, je perds cette forme sensible. La vision est donc à la fois une dépendance à l'égard du monde, du milieu dans lequel je me trouve, je suis dépendant de ce milieu, et en même temps, elle m'affecte d'une manière telle qu'elle m'enrichit. Je possède une nouvelle forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle, elle est vécue dans la vision. Elle est vécue dans la vision. Elle est vécue de l'intérieur. Je vois la lumière. Je suis baigné de lumière. J'aime cette couleur. Je suis fixé sur cette couleur. Et je la possède d'une certaine manière, mais je la possède dans un état de très grande dépendance. Puisque si la réalité disparaît, je ne la possède plus. Je ne l'ai plus. Donc je suis dans un état d'être tout entier relatif à cela.
C'est ce qui permet de préciser que la connaissance sensible, les sensations externes, impliquent en premier lieu une réceptivité à l'égard d'un certain secteur qui est le domaine de ces qualités sensibles. Telle ou telle qualité sensible. Je suis réceptif. La sensation apparaît en premier lieu comme le fait de pâtir. Ce qu'Aristote souligne, le topaskein. C'est le topaskein. La sensation implique en premier lieu. Ça fascine beaucoup ça. C'est vrai, la vision qui implique, on va voir tout de suite, quelque chose d'actif, mais implique une réceptivité. Je suis capable de recevoir une forme nouvelle puisque je vois la lumière. Et cette lumière, je ne la possède pas en moi. Si je la possédais en moi, je n'aurais pas besoin d'ouvrir les yeux. Alors j'ouvre les yeux et je vois ça. Oh, quelle belle lumière ce matin. C'est vrai, c'est étonnant ça. Après l'oraison, on a toujours un beau spectacle. Après le matin, on a toujours un beau spectacle de lumière étonnante. Ça, c'est merveilleux de pouvoir sortir la chapelle sur pas l'intérieur, vous comprenez. Comme ça, on peut voir pendant 5 minutes un peu le ciel. Et c'est merveilleux, c'est beau, ça. De tout de suite avoir cette réceptivité, cette capacité de recevoir quelque chose qui n'est pas moi, qui reste dans le domaine sensible et qui me met en contact avec quelque chose qui est infiniment loin de moi. Et je suis en contact. Mystérieux, je suis en contact. Contact sensible. Donc, la réceptivité. Enfin, c'est pour ça que les anciens disaient que c'est des fenêtres. Nos sens sont des fenêtres. Pour les yeux, c'est évident. C'est des fenêtres particulièrement subtiles. L'œil de bœuf. Ce sont des fenêtres qui sont le point de vue de la réceptivité. Alors, on reçoit la lumière. On reçoit ces qualités sensibles, ces formes intentionnelles, on les reçoit. On les reçoit et en même temps on est actif. Ah, c'est très curieux. On est à la fois passif dans une attitude de réceptivité et en même temps dans une attitude d'activité. Alors voyez là, la métaphysique de l'acte et de la puissance en prend un gros coup. Parce qu'on est en même temps passif et actif. C'est le vivant. Le vivant dans la connaissance a cette conscience d'être réceptif et en même temps d'être actif. Quand je vois, je suis actif. Ah, évidemment, ça se fait indépendamment de ma volonté. Je peux modifier un tout petit peu. Le gosse qui appuie sur son œil pour voir s'il voit différemment, et ainsi de suite. Au bout d'un certain temps, on ne le fait plus parce qu'on voit que ça bouge trop bien. Non, ça ne modifie pas, mais le gosse fait ça pour voir si ça change. Il dit attention, ne mets pas trop ton doigt dans ton œil, n'est-ce pas, parce que ça va être dangereux. Alors c'est bon. Alors il fait attention. Mais c'est vrai, je ne peux pas modifier. Je suis actif. Je me. Je vois. Et alors à ce moment-là, je suis quelqu'un qui est actif dans la vision et qui est réceptif. Il reçoit quelque chose d'autre et ce qu'il reçoit, ça devient lui. Ça devient lui. Il est actif dans sa vision. On constate, hein, décrivez ce que c'est que la vision. Décrivez ce que c'est que la vision de voir la lumière, d'être plongé de lumière. Et faire cette expérience très simple de voir. Et aimer de voir, comme dit Aristote, l'homme aime de voir, pourtant possible de jolies choses. Mais il aime de voir la lumière. C'est vrai, c'est magnifique de voir. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que de voir la lumière, ça change tout le temps. C'est pas beau parce que ça change tout le temps, mais ça a une gamme extraordinaire de voir cette espèce de lumière qui varie tout le temps, du matin jusqu'au soir. Quand il y a la pluie, ça prend une autre tonalité. Quand c'est un temps sec, c'est un autre. Voir la lumière pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la vision. Voir que la vision, et pas de limite. Quand vous regardez les étoiles, qu'on vous dit qu'ils sont si loin, si loin, si loin. La lumière. Et c'est vrai, quand je regarde les étoiles, c'est la lumière. Si je regarde vers certains appareils qui me permettent de grossir, je vois qu'il y a des couleurs différentes. Et c'est très beau de voir ces couleurs différentes. Mais à première vue, ça toujours, c'est la lumière. C'est la lumière qui se propage le plus. C'est pas la couleur. Hein. C'est la lumière. La lumière, ça se propage. Pas de limite. Tandis que la couleur, ça, oui. C'est pour ça que la lumière est fondamentale dans la vision. Qu'elle est première, qu'elle est dernière, qu'elle est ce qui caractérise la vision. Voir la lumière. Et quand je vois la lumière, je ne vois rien. Je ne vois que la lumière. Alors, à partir de là, j'analyse, hein, je constate. Il faut d'abord constater, décrire. On fera la même chose pour le toucher, très important. Vision et toucher, c'est les deux extrêmes. Hein. C'est les deux extrêmes de ma vie sensible. Alors, j'analyse. Je dis que j'ai conscience de porter en moi, quand je vois, quelque chose de nouveau. Quand je ferme les yeux, ça n'est plus donné. Je garde dans mon trésor de ma mémoire, mais c'est plus du tout la même chose. Tandis que lorsque je vois quelque chose qui m'actue. Et je possède cela. Alors la vision implique donc première connaissance, c'est une connaissance. C'est ma première connaissance, c'est la vision. C'est ma connaissance sensible, où je pâtis, où je suis en communion avec quelque chose qui est extérieur à moi, où je deviens moi-même cette forme, sans modifier cette réalité. Tandis que quand je mange, je modifie l'aliment que je mange. Quand je vois, je ne modifie pas la réalité que je vois. Je ne modifie pas. Surtout dans la vision, je respecte. Le caractère premier de la connaissance, c'est le respect de l'autre. Je suis modifié, moi, mais je ne modifie pas l'autre. Et alors là, c'est tout à fait autre chose, vous voyez, que l'animal, le point de vue de la vie végétative. La vie végétative modifie. Elle transforme. Dans la vie végétative, j'ai le sens terrible de l'égoïsme du vivant. Le vivant de vie végétative ramène tout à lui. Le geste spontané du gosse qui prend un morceau de sucre. Donc il ramène tout à lui. Il ramène profondément à lui, c'est sûr. Tandis qu'au contraire, quand le gosse commence à voir, puis quand je vois, c'est très bien. Moi, notre vie végétative est un peu éduquée. Hein. Alors elle n'est pas aussi spontanée que celle d'un enfant. C'est pour ça que c'est bon de la regarder dans un vie d'un enfant. Parce que chez nous, ça peut abîmer la vie végétative. Nous sommes cultivés. Alors nous sommes très abîmés au point de vue de la vie végétative. Il y a une cohabitation qui n'est pas commune du tout. Voyez. La cohabitation de la vie végétative avec la vie sensible. C'est effrayant pour la vie végétative d'être enveloppée de la vie sensible. Et la vie sensible est enveloppée de la vie spirituelle, c'est encore pire. Alors tout ça est un peu abîmé. Ça c'est sûr, c'est un peu abîmé. Ça peut être aussi merveilleusement sublimé, merveilleusement transformé. Ça oui, il faut revoir ça. Ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est que justement je suis en contact avec l'autre, je le respecte et je suis modifié par l'autre, je suis enrichi par l'autre. Il faut donc, quand il s'agit de la vision, montrer qu'il y a une réalité objective. Là, je peux parler d'un objet. Il y a une réalité objective, comme ici, l'aliment. Il y a une réalité objective qui me détermine, et moi-même, devant cette détermination, j'assimile cette réalité. Je deviens cette lumière intentionnelle. Je deviens cette couleur intentionnellement au niveau sensible. Et je suis donc modifié, je suis enrichi. Je pose donc une faculté, une dynamis. Je pose donc une faculté qui correspond à ce taux Pascal
et qui correspond donc à cette capacité de pâtir et qui correspond à cette manière de me mouvoir, cette manière de transformer. Donc je suis en présence de quelque chose de tout à fait nouveau au point de vue du vivant. Le vivant devient respectueux de l'autre. Un vivant qui connaît respecte l'autre. Alors qu'un vivant de vie végétative ne respecte pas. Ça, je crois que c'est tout de suite le caractère différent de la vie végétative avec la vie sensible. La vie sensible a tout de suite ce respect de l'autre. C'est très très important de comprendre que la connaissance respecte. Vous voyez, hein, ça donne peut-être la solution de ce qu'on cherchait. Qu'est-ce qui est supérieur ? L'inspiration ou la contemplation ? La connaissance respecte. La vie végétative transforme l'autre. Ce qui est plus fondamental dans la connaissance, c'est de respecter l'autre. C'est donc être objectif. Qu'est-ce que c'est que d'être objectif ? C'est de respecter l'autre. C'est de le regarder comme il est, sans le modifier. En se modifiant soi-même pour le regarder. Et ça, c'est bien la connaissance de la vision qui me fait connaître ça, qui me met tout de suite en présence de ça. Je deviens l'autre, je ne le modifie pas, c'est moi qui suis modifié. C'est une chose extraordinaire que fait la vision. Voir quelqu'un, voir une qualité sensible, et c'est la première connaissance, on ne peut pas nier, hein. C'est la première connaissance. Alors, c'est important de souligner ça, parce que c'est pour moi, je commence à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que connaître. Connaître, devenir l'autre, en respectant l'autre, sans vouloir l'annexer à soi. Le respecter tel qu'il est, dans son altérité, le respecter dans son caractère propre, et être modifié par lui. Accepter d'être modifié par lui. Accepter que l'autre me transforme. Ça a tapé. J'ai entendu vaguement. Vous voyez, hein, quand on entend, c'est connaître. Et comme ça a une signification, on est obligé d'arrêter. Mais ça, c'est l'intelligence.